RFI Matin à suivre dans les prochaines minutes. Le bras de fer entre le Niger et le Bénin. Peut-on espérer un apaisement? Notre invité Afrique, l'ancien chef de la diplomatie béninoise, Théodore Olo. Reportage, nous allons aux Comores, sur l'île d'Anjouan, avec des coiffeuses à domicile. Et puis Afrique Économie en Centrafrique. Là, on vous parlera du commerce des mangues, qui reste encore extrêmement artisanal. Avant le journal, il y aura Maman, bien sûr. Et avant tout ça, il y a Olivier Pron en direct. Bonjour Monsieur Pron.
Bonjour Monsieur Pontus, bonjour à tous.
Les sports avec vous bien sûr, et du basket pour commencer avec les tout derniers tournois de qualification olympique qui débutent chez les hommes en Grèce, en Lettonie, en Espagne et à Porto Rico.
Ah ça envoie du pays, hein. 4 tournois, 6 équipes en lice par tournoi, 4 vainqueurs au final qualifiés pour Paris qui s'ajouteront aux 8 qui ont déjà validé leur ticket. Un chemin de croix. L'Afrique est présente dans chacune de ses ultimes compétitions. L'Angola est à Valence, face notamment à l'Espagne et au Liban, l'Égypte à Athènes, premiers adversaires, la Grèce et la République dominicaine. Le Cameroun est à Riga, en Lettonie, et devra d'abord écarter le Monténégro, puis éventuellement le Brésil. Enfin, la sélection masculine ivoirienne, Arnaud, débute ce mercredi son tournoi de qualification du côté de Porto Rico par un match contre la Lituanie. Les éléphants doivent impérativement finir parmi les 2 premiers d'un groupe de 3 pour espérer se qualifier pour la suite du tournoi et ainsi glaner un premier ticket pour les Jeux périlleux. Sofiane Amazian explique pourquoi.
24 sélections s'affrontent à travers le globe avec l'espoir de récupérer l'un des 4 sésames pour disputer les Jeux Olympiques de Paris. Parmi les 4 tournois organisés, celui de Porto Rico est particulièrement relevé et ce n'est pas un cadeau pour les Ivoiriens. Les vice-champions d'Afrique 2021 débutent par un duel corsé, la Lituanie habituée au haut niveau mondial. Médaillée de bronze lors des championnats du monde 2010, 6e en 2023, la sélection portée par le pivot des Kings de Sacramento, Domantas Sabonis, est ultra favorite. Ensuite, la Côte d'Ivoire, qui a disputé les 2 derniers mondiaux, affrontera le Mexique, un match a priori plus abordable, avant de peut-être retrouver en demi-finale l'Italie, 13e nation mondiale, 5e lors des Jeux de Tokyo, ou bien le pays hôte Porto Rico. Le ticket de qualification olympique sera attribué au vainqueur de la finale du tournoi. Les joueurs de Nacho Lescano voudront jouer les troubles faits avec une équipe moins impressionnante que prévu. Présent en match de préparation de juin, le français Ismaël Kamagaté, qui a changé de nationalité sportive cette année, et surtout Mohamed Bamba, intérieur de 2m13 et fraîchement transféré du côté des Clippers de Los Angeles, ne disputeront pas le TQO. Le nouveau règlement de la Fédération Internationale de Basket ordonne un délai de 45 jours pour validation du dossier administratif.
Bah, c'est encore plus compliqué que prévu. Alors, coup d'envoi de Côte d'Ivoire, Lituanie, 21h30, TU, en cas de succès dans ce TQO de Porto Rico. Les Ivoiriens rejoindraient le groupe C au jeu avec la Serbie, le Soudan du Sud et les USA, pardon.
Les Jeux, eux, ils sont sûrs d'y participer. Les athlètes béninois qualifiés sont même déjà en France.
Ouais, l'occasion de prendre des nouvelles d'un athlète que l'on suit sur RFI, Valentin Winato, judoka béninois, qualifié très récemment pour le tournoi olympique. Il a rejoint cette semaine une partie de sa délégation à Montfort-le-Génois, dans la Sarthe, dans l'ouest de la France. Un stage de préparation de quelques jours pour lui, pour se mettre en mode JO, c'est ce qu'il a confié à Baptiste Leduc.
Après, la qualification, elle a été officialisée seulement il y a 10 jours, 2 semaines. Donc c'est assez récent et c'est assez compliqué de faire la bascule entre ce qu'on a vécu pendant 2 ans, les galères, la qualification, etc. Et de se dire qu'en fait, les Jeux, c'est déjà dans 3 semaines. Je me suis dit que cette parenthèse à Montfort-le-Génois, c'était ma bascule à moi. Et dès que je rentre dans mon club à Paris d'ici quelques jours, rentre en mode compétition.
Le judoka béninois Valentin Winato, qui ne devrait donc pas avoir le temps de goûter la spécialité de la Sarthe. Hein, on connaît bien les rillettes. Bon, c'est pas vraiment géocompatible en même temps.
Les rillettes du Mans, c'est pas géocompatible.
Bah, je suis pas sûr. Pour les gars comme nous, oui.
Si oui. Ah, voilà, ça. Bon, voilà. Alors moi, je continue pas le sport, mais je continue les rillettes.
Bah, pareil.
Merci pour le feu vert, Olivier Pron. Il est 6h46 à Paris. Vous revenez dans une heure, hein. Sans rillettes.
RFI, toute l'actualité. Arnaud Pontus.
À la une aujourd'hui, jour J-4 avant le second tour des élections législatives en France. On a maintenant la liste des candidats en lice pour barrer la route à l'extrême droite. Plus de 210 candidats se sont désistés à gauche et dans le camp présidentiel. Le RN espère toujours obtenir une majorité absolue, mais envisage quand même de former un gouvernement en cas de majorité relative, en complétant avec des soutiens éventuels à droite. C'est ce qu'a indiqué hier Marine Le Pen. Au Royaume-Uni, les législatives, elles ont lieu dès demain. Les travaillistes sont les favoris des sondages après 14 années de pouvoir détenus par les conservateurs. Joe Biden pourra-t-il vraiment être candidat à la prochaine présidentielle aux États-Unis? Les poids lourds du Parti démocrate s'interrogent ouvertement sur l'état de santé et l'état de forme du président sortant. Il est candidat à sa réélection pour le mois de novembre face à Donald Trump. Son débat était calamiteux jeudi dernier. L'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'interroge. Et aujourd'hui, Joe Biden doit rencontrer les gouverneurs démocrates. Dans l'actualité également, la guerre au Proche-Orient et aujourd'hui une frappe israélienne dans le camp de réfugiés de Nour Shams, près de Tul Karem, dans le nord de la Cisjordanie. Il y a 4 morts. Israël dit avoir visé une cible terroriste. Reportage aux Comores, 3e et dernier épisode de notre série sur l'île d'Anjouan, à Moutsamoudou, la capitale. Il faut le savoir, il y a peu de salons de beauté et pourtant la demande est forte. Alors les femmes n'hésitent pas à faire appel à des coiffeuses et à des maquilleuses à domicile. Elles viennent exercer chez elles. Reportage d'Abdallah Mzembaba.
C'est chez elle, dans une pièce de sa maison, située au cœur de la médina de Moutsamoudou, que Fayrouz s'occupe de ses clientes. Ce matin, elles sont 3, la mère de famille, coiffeuse Rine, pendant que ses autres clientes, confortablement installées sur le canapé, discutent entourées de produits de beauté.
J'ai commencé ce travail en 2021. Dans mon salon, je maquille des mariés, mais pas uniquement. Je coiffe aussi, je pose des faux ongles. C'est surtout pendant les vacances que l'activité est intense. Dieu soit loué.
Fayrouz est mère de 2 enfants et elle se déplace souvent pour satisfaire ses clientes. Le prix de ses services varie. Une simple coiffure coûte 5000 francs, tandis qu'un mariage traditionnel, qui nécessite plusieurs jours d'un travail minutieux, peut atteindre les 200 000 francs. À Moutsamoudou, la beauté féminine ne se limite pas à la coiffure et au maquillage. À 19 ans, Riana Youssouf Bakar est étudiante en gestion, mais elle a surtout une passion depuis 11 ans, le henné. Ses dessins éphémères, tatoués à même la peau, sont très prisés des femmes de Moutsamoudou et Riana souhaite en faire son métier à plein temps.
Grâce à cette activité, je peux me payer le taxi pour la fac ou acheter des choses sans avoir à le demander à ma mère ou à mon père. J'aimerais un jour ouvrir un salon pour le henné, mais je n'ai pas encore trouvé l'endroit et surtout le financement.
Parmi ses clientes fidèles, Haïda, une jeune mariée de 22 ans.
Je le mets pour n'importe quelle occasion, tel le jour de l'Aïd, un mariage ou juste pour faire plaisir à mon mari. Personnellement, c'est quelque chose qui me fait plaisir, moi en premier.
La beauté aux Comores, ce sont aussi les fleurs, une tradition ancestrale que Mariama Mikitadi perpétue grâce au collier qu'elle crée. Chez elle, le parfum suave des fleurs envahit l'espace, mêlant les notes enivrantes du jasmin, du patchouli et du basilic sacré. Chaque collier est une création unique, un bouquet parfumé porté à même la peau lors de multiples cérémonies, comme les mariages.
On a hérité cette pratique de nos ancêtres et quand on a grandi, on a pris la relève. Pendant les vacances, louange à Dieu, je vends beaucoup de mes créations car les mariages sont nombreux. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans le métier.
Abdallah Mzembaba, Moutsamoudou, RFI.
Et à Moutsamoudou sur l'île d'Anjouan, il est 7h50, 6h50 à Paris. Notre invité Afrique a écouté dans moins d'une heure sur RFI le juriste béninois Théodore Olo. Il a été président de la Cour constitutionnelle de Cotonou et ministre béninois des Affaires étrangères. On revient avec lui sur les tensions entre le Niger et le Bénin. Depuis bientôt 5 mois, le Niger refuse de rouvrir sa frontière avec le Bénin alors qu'il a ouvert sa frontière avec le Nigeria. Pour autant, le dialogue n'est pas rompu entre Cotonou et Niamey.
Il y a de très bonnes relations entre les populations de part et d'autre des frontières au nord du Nigeria et au sud du Niger. Les anciens présidents du Nigeria sont allés aussi en médiation parce qu'ils ont dissuadé le président Bola Tinubu de mettre en œuvre la décision d'intervenir militairement au Niger. Cela a amené les dirigeants du Niger à penser que le Nigeria n'est pas leur ennemi et ils ne peuvent pas s'opposer au grand Nigeria. Mais le Bénin est le maillon faible câble de la chaîne et il y a une sanction directe qui est le fait que le port de Cotonou rapporte également au Bénin beaucoup de ressources, à peu près 20 à 30% de ces ressources grâce au transit des produits en destination du Niger. Je crois que nous sommes plus faibles que le Nigeria et on a voulu nous tirer davantage les oreilles.
La semaine dernière, deux anciens présidents béninois, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ont été reçus à Niamey par le général Tiani, le numéro 1 du régime militaire nigérien. Cela est-il de bon augure à votre avis?
Qu'il ait accepté de recevoir des anciens présidents de la République est déjà de bon augure. Et je crois que les anciens présidents Yayi Boni et Nicéphore Dieudonné Soglo ont rendu compte au président Talon des résultats de leur mission. Et je crois savoir qu'il y aura eu l'arrivée certainement d'une délégation du Niger pour que au moins les voies de la négociation soient ouvertes et que les concessions nécessaires puissent être faites afin que les choses redeviennent normales.
Le juriste béninois Théodore Olo, notre invité Afrique avec Christophe Boisbouvier tout à l'heure. À suivre sur RFI, après RFI Matin, appel sur l'actualité, le débat du jour autour du Sénégal et de l'ultimatum d'Ousmane Sonko. Si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'est pas modifié d'ici au 15 juillet, le Premier ministre, Ousmane Sonko, menace de ne pas prononcer son discours de politique générale devant les députés, mais devant une Assemblée citoyenne. Comprenez-vous cette décision? La polémique est-elle, selon vous, justifiée? Le standard est ouvert, 33 9 693 693 70. Appel sur l'actualité à 8h10 temps universel.
RFI Matin.
Reportage en Centrafrique où la saison des pluies est aussi la saison des mangues. Une période qui va généralement de mars à juin. Aubaine pour les Centrafricains qui possèdent un manguier, bien évidemment. Car le commerce des fruits permet d'alimenter les ménages et les petits commerces. Une activité qui reste encore extrêmement artisanale. Reportage de Rolf-Steph Domialu.
Des mangues mûres sur toutes les branches. Dans ce champ de 20 hectares à proximité de Bangui se trouvent 7 manguiers. En Centrafrique, pas de grande plantation. Armand Koulayom, le propriétaire et entrepreneur, profite du bénéfice de ces mangues en les revendant à un grossiste.
Vraiment, chez nous, chaque ménage a quand même un ou deux manguiers dans la concession. Donc ça, on peut dire que c'est une bénédiction pour la RCA. Et pendant l'époque des mangues comme ça, les mangues sont trop moins chères.
À quelques pas de ce champ, au bord de la route, les mangues sont vendues dans des cuvettes, des bassines, des sacs ou étalées sur des tables pour attirer les clients. Les prix varient selon les variétés et les grosseurs. Juvenal est un vendeur de mangues.
Comme vous voyez, je vends un tas de 5 mangues à 50 francs CFA. Tous les jours, les revendeuses viennent acheter mes mangues dans des sacs et des cuvettes. Il y a plusieurs modèles de sacs et chez moi, les prix par sac varient de 5 à 7 000 francs CFA.
En Centrafrique, la cueillette se fait de manière artisanale. Certains utilisent des bâtons au bambou, d'autres préfèrent grimper directement dans l'arbre. Julienne, une commerçante, profite de cette période pour développer d'autres affaires.
Chaque jour, je gagne entre 4 000 et 4 500 francs CFA. En 12 jours, je m'en sors avec 50 000 ou 55 000. Cet argent me permet de couvrir les besoins de ma famille. Je fais aussi de l'épargne qui me permettra de me lancer dans un autre commerce durable après la saison des mangues.
Mais à Bangui, il se pose un problème de conditionnement. Il y a peu de chambres froides pour conserver les fruits et il n'existe pas d'entreprise de transformation. Armand Koulayom estime que ce secteur est plein de potentiel.
Pour relancer ce secteur, on dit qu'il faut avoir une vision. Il faut chercher des opportunités de crédit. On demande même au gouvernement de chercher des possibilités au niveau de Banque mondiale, au niveau des banques pour accompagner déjà ceux qui font dans les transformations des jus naturels en mangue, des confitures en mangue, pour les accompagner, d'avoir des machines pour faire ça d'une manière industrielle et exporter pour développer notre pays.
Ce secteur encore très informel et limité représente cependant aujourd'hui une source de revenus importante pour de nombreux ménages. Rolf-Steph Domialu, Bangui, RFI.
Prochain rendez-vous éco dans RFI Matin, les matières premières autour du secteur de l'huile d'olive. Encore une année difficile après 2 ans de crise et puis aujourd'hui l'économie. Restructurer une dette en pleine guerre, c'est un défi pour l'Ukraine, nous dira tout à l'heure Dominique Bayard. Dans 4 minutes, un nouveau journal sur RFI. Mais d'abord, le sourire de Maman. Au Gondwana, le crime le plus grave est l'outrage à président fondateur.
Oui, dans la vie, il y a plusieurs étages, dans l'impolitesse, plusieurs levels, dans le manque de respect. Depuis tout petit, on t'a appris à dire bonjour, merci, au revoir. On t'a appris le vouvoiement, le s'il vous plaît. On t'a inculqué le respect d'autrui, de tes aînés, de tes supérieurs au boulot ou dans l'armée. Bref, ces bonnes manières, ben c'est le GPS pour ta vie future. Le GPS pour naviguer en tout milieu. Et c'est ce GPS là qui peut te sauver la mise et t'éviter les situations les plus inconfortables en très très démocratique république. En matière de manque de respect, tu peux partir de la plus petite impolitesse du quartier en passant par celle envers le policier, ton banquier ou le ministre. Si on met de côté le manque de respect envers ton papa et ta maman et le blasphème envers Dieu, la différence entre les deux étant que pour ta maman et ton papa, ben c'est entre toi et eux, entre toi et toi-même. Si tu leur manques de respect, eux ne te diront rien, ils te pardonneront. Tu es leur enfant pour la vie, mais tu passeras forcément à la caisse de la vie tôt ou tard, mon ami. Quant au blasphème envers Dieu, lui non plus ne te dira rien. Il t'attend là-haut. Mais sache qu'il y a toujours un zélé ici-bas qui va acheter la bagarre pour lui. Et donc, en très très démocratique république, le Kilimandjaro du manque de respect, l'Everest de l'impolitesse, c'est l'outrage à président fondateur, l'offense à notre leader bien-aimé. Là, mon ami, si tu es coupable d'offense à président fondateur, lui aussi, comme Dieu ou tes parents, ben lui aussi ne te fera rien personnellement. Il est au-dessus de toutes ces contingences bassement terrestres. Il ne va rien te dire, il ne va rien te faire, mais tu n'es pas sorti de l'auberge, mon ami. Au contraire, tu viens d'y entrer en grande pompe et c'est à coup de pompe dans le derche que tu seras accueilli et traité. Outrage à notre leader bien-aimé, ben tu es dans pain, comme on dit au Gondwana. Ta punition n'est pas prévue pour l'au-delà. Non, 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 elle sera ici et maintenant. Je ne te parle même pas de sergents s'en fout la mort des autres ou des zélés militants du parti présidentiel qui vont te chicoter. Non, mon ami, c'est la justice gondouanaise même qui t'enverra une lettre d'invitation parce que les juges ont prévu des fêtes d'anniversaire pour des impolis comme toi. Fêtes d'anniversaire avec cadeaux et gâteaux d'anniversaire dont tu te souviendras toute ta vie. Donc, sache qu'on ne fait pas d'outrage à président fondateur, hein, mais des hommages et des louanges. Si tu ne fais pas d'hommage, ce sera dommage pour ta face, hein, et tu payeras les dommages et intérêts à vie à tous les Gondouanais pour la souffrance psychologique que tu leur as infligée en outrageant leur leader bien-aimé, phare des phares, astre des astres, celui qui voit et entend plus vite et plus loin que nous tous. Que le miel soit doux à ton palais, cher président fondateur. Amen.
À demain, Maman, et merci. Le journal, c'est dans une minute.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Nous nous interrogeons sur les liens entre montée de l'extrême droite en France et dégradation de l'environnement. Nous nous intéressons aux projets pharaoniques qui se multiplient dans le monde pour apporter de l'eau là où il n'y en a plus. Et nous vous donnons toutes les infos sur le nouveau concours hip-hop.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Suite au décès de l'écrivain Ismaël Kadare, mort à 88 ans à Tirana, et pour lequel l'Albanie, son pays, a déclaré 2 jours de deuil national, je vous propose de redécouvrir un grand entretien que l'auteur m'avait accordé en 2017 chez lui à Paris pour évoquer ses souvenirs littéraires et politiques.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU. RFI.